Chapitre 2. Le lendemain, après le déjeuner, le comte me proposa de faire une promenade. Il s'agissait de visiter un kapas, c'est ainsi que les Lituaniens appellent les tumulus auxquels les Russes donnent le nom de kourganes, très célèbres dans le pays, parce qu'autrefois les poètes et les sorciers, ou c'était tout un, s'y réunissaient en certaines occasions solennelles. « J'ai, me dit-il, un cheval fort doux à vous offrir. Je regrette de ne pouvoir vous mener en calèche, mais en vérité, le chemin où nous allons nous engager n'est nullement carrossable. J'aurais préféré demeurer dans la bibliothèque à prendre des notes, mais je ne crus pas devoir exprimer un autre désir que celui de mon généreux hôte, et j'acceptai. Les chevaux nous attendaient au bas du perron. Dans la cour, un valet tenait un chien en laisse. Le comte s'arrêta un instant et se tournant vers moi, « Monsieur le professeur, vous connaissez-vous en chien ?»« Fort peu, votre excellence. » »« Le staroste de Zorani, où j'ai une terre, m'envoie cet épagnol dont il dit merveille. »« Permettez-vous que je le voie ?» Il appela le valet qui lui amena le chien. C'était une fort belle bête. Déjà familiarisé avec cet homme, le chien sautait gaiement et semblait plein de feu. Mais à quelques pas du comte, il mit la queue entre les jambes, se rejeta en arrière et parut frappé d'une terreur subite. Le comte le caressa, ce qui le fit hurler d'une façon lamentable, et après l'avoir considéré quelque temps avec l'œil d'un connaisseur, il dit « Mais je crois qu'il sera bon, qu'on en ait soin. » Puis il se mit en selle. « Monsieur le professeur, me dit le comte, dès que nous fûmes dans l'avenue du château, vous venez de voir la peur de ce chien. J'ai voulu que vous en fussiez témoin par vous-même. En votre qualité de savant, vous devez expliquer les énigmes. Pourquoi les animaux ont-ils peur de moi ? Ah, en vérité, monsieur le comte, vous me faites l'honneur de me prendre pour un Œdipe. Je ne suis qu'un pauvre professeur de linguistique comparée. Il se pourrait. Notez, interrompit-il, que je ne bats jamais les chevaux ni les chiens. Je me ferais scrupule de donner un coup de fouet à une pauvre bête qui fait une sottise sans le savoir. Pourtant, vous ne sauriez croire l'aversion que j'inspire aux chevaux et aux chiens. Pour les habituer à moi, il me faut deux fois plus de peine et deux fois plus de temps que n'en mettrait un autre. Tenez, le cheval que vous montez, j'ai été longtemps avant de le réduire. Maintenant, il est doux comme un mouton. Je crois, monsieur le comte, que les animaux sont physionomistes, et qu'il découvre tout de suite si une personne qu'il voit pour la première fois a ou non du goût pour eux. Je soupçonne que vous n'aimez les animaux que pour les services qu'ils vous rendent. Au contraire, quelques personnes ont une partialité naturelle pour certaines bêtes qui s'en aperçoivent à l'instant. Pour moi, par exemple, j'ai depuis mon enfance une prédilection instinctive pour les chats. Rarement ils s'enfuient quand je m'approche pour les caresser. Jamais un chat ne m'a griffé. Cela est fort possible, dit le comte. En effet, je n'ai pas ce qu'on appelle du goût pour les animaux. Ils ne valent guère mieux que les hommes. Je vous mène, monsieur le professeur, dans une forêt où, à cette heure, existe florissant l'empire des bêtes. La Matechnik, la grande matrice, la grande fabrique des êtres. Oui, selon nos traditions nationales, personne n'en a sondé les profondeurs, personne n'a pu atteindre le centre de ces bois et de ces marécages, excepté, bien entendu, messieurs les poètes et les sorciers, qui pénètrent partout. Là vivent en république les animaux, ou sous un gouvernement constitutionnel, je ne saurais dire lequel des deux. Les lions, les ours, les élans, les ours Ce sont nos urus, tout cela fait très bon ménage. Le mammouth qui s'est conservé là jouit d'une grande considération. Il est, je crois, maréchal de la diète. Ils ont une police très sévère, et quand ils trouvent quelque bête vicieuse, ils la jugent à l'exil. Elle tombe alors de fièvre en chaud mal. Elle est obligée de s'aventurer dans le pays des hommes. Peu en réchappe. Fort curieuse légende, m'écriai-je. Mais monsieur le comte, vous parlez de l'urus, ce noble animal que César a décrit dans ses commentaires et que les rois mérovingiens chassaient dans la forêt de Compiègne. Existe-t-il réellement encore en Lituanie, ainsi que je l'ai ouï dire ? Assurément. Mon père a tué lui-même un joubre, avec une permission du gouvernement, bien entendu. Vous avez pu en voir la tête dans la grande salle. Moi, je n'en ai jamais vu, je crois que les joubres sont très rares. En revanche, nous avons ici des loups et des ours à foison. C'est pour une rencontre possible avec un de ces messieurs que j'ai apporté cet instrument. Il montrait une tchécole circassienne qu'il avait en bandoulière. Et mon groom porte à l'arçon une carabine à deux coups. Nous commencions à nous engager dans la forêt. Bientôt, le sentier fort étroit que nous suivions disparut. À tout moment, nous étions obligés de tourner autour d'arbres énormes dont les branches basses nous barraient le passage. Quelques-uns, morts de vieillesse et renversés, nous présentaient comme un rempart couronné par une ligne de chevaux de frise impossible à franchir. Ailleurs, nous rencontrions des mares profondes, couvertes de nénuphars et de lentilles d'eau. Plus loin, nous voyions des clairières dont l'herbe brillait comme des émeraudes. Mais malheur à qui s'y aventurerait, car cette riche et trompeuse végétation cache d'ordinaire des gouffres de boue où cheval et cavalier disparaîtraient à jamais. Les difficultés de la route avaient interrompu notre conversation. Je mettais tous mes soins à suivre le comte et j'admirais l'imperturbable sagacité avec laquelle il se guidait sans boussole et retrouvait toujours la direction idéale qu'il fallait suivre pour arriver au Capas. Il était évident qu'il avait longtemps chassé dans ces forêts sauvages. Nous aperçûmes enfin le tumulus au centre d'une large clairière. Il était fort élevé, entouré d'un fossé encore bien reconnaissable, malgré les broussailles et les éboulements. Il paraît qu'on l'avait déjà fouillé. Au sommet, je remarquai les restes d'une construction en pierre, dont quelques-unes étaient calcinées. Une quantité notable de cendres mêlées de charbon, et çà et là, des tessons de poterie grossière, attestaient qu'on avait entretenu du feu au sommet du tumulus pendant un temps considérable. Si on ajoute foi aux traditions vulgaires, des sacrifices humains auraient été célébrés autrefois sur les Capas. Mais il n'y a guère de religion éteinte à laquelle on ait imputé ces rites abominables, et je doute qu'on pût justifier pareille opinion à l'égard des anciens lituaniens par des témoignages historiques. Nous descendions, le tumulus, le comte et moi, pour retrouver nos chevaux, que nous avions laissés de l'autre côté du fossé, lorsque nous vîmes s'avancer vers nous une vieille femme s'appuyant sur un bâton et tenant une corbeille à la main. « Mais bon seigneur, nous dit-elle en nous joignant, veuillez me faire la charité pour l'amour du bon Dieu. « Donnez-moi de quoi acheter un verre d'eau-de-vie pour réchauffer mon pauvre corps. » Le comte lui jeta une pièce d'argent et lui demanda ce qu'elle faisait dans le bois, si loin de tout endroit habité. « Pour toute réponse, elle lui montra son panier qui était rempli de champignons. Bien que mes connaissances en botanique soient fort bornées, il me sembla que plusieurs de ces champignons appartenaient à des espèces vénéneuses. « Bonne femme, lui dis-je, vous ne comptez pas, j'espère, manger cela. » « Mon bon seigneur, répondit la vieille avec un sourire triste, les pauvres gens mangent tout ce que le bon Dieu leur donne. » « Ah, vous ne connaissez pas nos estomacs lituaniens, reprit le comte. Ils sont doublés de fer blanc. Nos paysans mangent tous les champignons qu'ils trouvent, mais ne s'en portent que mieux. Ah, empêchez-la du moins de goûter de l'agaricus necator que je vois dans son panier, m'écriai-je. J'étendis la main pour prendre un champignon des plus vénéneux. Mais la vieille retira vivement le panier. « Prends garde, dit-elle d'un ton d'effroi, ils sont gardés, Pirkuns, Pirkuns. » Pirkuns, pour le dire en passant, est le nom symbolicien de la divinité que les Russes appellent Perun. C'est le Jupiter tonnance des Slaves. Si je fus surpris d'entendre la vieille invoquer un dieu du paganisme, je le fus bien davantage de voir les champignons se soulever. La tête noire d'un serpent en sortit et s'éleva d'un pied au moins hors du panier. Je fis un saut en arrière et le comte cracha par-dessus son épaule, selon l'habitude superstitieuse des Slaves, qui croient détourner ainsi les maléfices à l'exemple des anciens Romains. La vieille posa le panier à terre, s'accroupit à côté, puis, la main étendue vers le serpent, elle prononça quelques mots inintelligibles qui avaient l'air d'une incantation. Le serpent demeura immobile pendant une minute, puis, s'enroulant autour du bras décharné de la vieille, disparut dans la manche de sa capote en peau de mouton, qui, avec une mauvaise chemise, composait, je crois, tout le costume de cette Circé lituanienne. La vieille nous regardait avec un petit air de triomphe, comme un escamoteur qui vient d'exécuter un tour difficile. Il y avait dans sa physionomie ce mélange de finesse et de stupidité qui n'est pas rare chez les prétendus sorciers, pour la plupart à la fois dupes et fripons. « Voici, me dit le comte en allemand, un échantillon de couleur locale. Une sorcière qui charme un serpent au pied d'un capace, en présence d'un savant professeur et d'un ignorant gentilhomme lituanien. Cela ferait un joli sujet de tableau de genre pour votre compatriote Knaus. Avez-vous envie de vous faire tirer votre bonne aventure? Vous avez ici une belle occasion. » Je lui répondis que je me garderais bien d'encourager de semblables pratiques. J'aime mieux, jouais-je, lui demander si elle ne sait pas quelques détails sur la curieuse tradition dont vous m'avez parlé. Bonne femme, dis-je à la vieille, n'as-tu pas entendu parler d'un canton de cette forêt où les bêtes vivent en communauté, ignorant l'empire de l'homme? La vieille fit un signe de tête affirmatif et, avec son petit rire moitié niais, moitié malin, « J'en viens, dit-elle, les bêtes ont perdu le roi. Noble, le lion est mort, les bêtes vont élire un autre roi. Vas-y, tu seras roi peut-être. » « Que dis-tu là, la mère ? » s'écria le comte éclatant de rire. « Mais sais-tu bien à qui tu parles ? Tu ne sais donc pas que monsieur est... Oh, comment diable dit-on un professeur en jmoud ? Monsieur est un grand savant, un sage, Veille de l'hôte. La vieille le regarda avec attention. Oh, j'ai tort, dit-elle. C'est toi qui dois aller là-bas. Tu seras le roi, non pas lui. Tu es grand, tu es fort, tu as des griffes et des dents.
Que dites-vous des épigrammes qu'elle nous décoche? Me dit le comte.
Tu sais le chemin, ma petite mère? Lui demanda-t-il.
Elle lui indiqua de la main une partie de la forêt.
Oui, da, reprit le comte, et le marais, comment fais-tu pour le traverser?
Vous savez, monsieur le professeur, que du côté qu'elle indique est un marais infranchissable, un lac de boue liquide recouvert d'herbes vertes. L'année dernière, un cerf blessé par moi s'est jeté dans ce marécage, et je l'ai vu s'enfoncer lentement, lentement. Au bout de 2 minutes, je ne voyais plus que son bois. Bientôt, tout a disparu et 2 de mes chiens avec lui.
« Mais moi, je ne suis pas lourde, » dit la vieille en ricanant.
« Je crois que tu traverses le marécage sans peine, sur un manche à balai. » Un éclair de colère brilla dans les yeux de la vieille.
« Mon bon seigneur, » dit-elle en reprenant le ton traînant et nasillard des mendiants, « n'aurais-tu pas une pipe de tabac donnée à une pauvre femme ?»« Tu ferais mieux, » ajouta-t-elle en baissant la voix, « de chercher le passage du marais que d'aller à Dorielli. »
« Dorielli, » s'écria le comte en rougissant, « que veux-tu dire ?»
Je ne pus m'empêcher de remarquer que ce mot produisait sur lui un effet singulier. Il était évidemment embarrassé. Il baissa la tête, et afin de cacher son trouble, se donna beaucoup de peine pour ouvrir son sac à tabac suspendu à la poignée de son couteau de chasse.
« Non, ne va pas, Dorielli, » reprit la vieille. « La petite colombe blanche n'est pas ton fait. » N'est-ce pas, Pirkouns ?
En ce moment, la tête du serpent sortit par le collet de la vieille capote et s'allongea jusqu'à l'oreille de sa maîtresse. Le reptile, dressé sans doute à ce manège, remuait les mâchoires comme s'il parlait.
« Il dit que j'ai raison !» ajouta la vieille.
Le comte lui mit dans la main une poignée de tabac.
« Tu me connais ?» lui demanda-t-il. « Non, mon bon seigneur.
Je suis le propriétaire de Medin Tiltas. Viens me voir un de ces jours. Je te donnerai du tabac et de l'eau de vie. »
La vieille lui baisa la main et s'éloigna à grands pas. En un instant, nous l'eûmes perdu de vue. Le comte demeura pensif, nouant et dénouant les cordons de son sac, sans trop savoir ce qu'il faisait.
« Monsieur le professeur, me dit-il après un assez long silence, vous allez vous moquer de moi. Cette vieille drôlesse me connaît mieux qu'elle ne le prétend, et le chemin qu'elle vient de me montrer... Bon, après tout, il n'y a rien de bien étonnant dans tout cela. » Je suis connu dans le pays comme le loup blanc. La coquine m'a vu plus d'une fois sur le chemin du château de Dorielli. Il y a là une demoiselle à marier. Elle a conclu que j'en étais amoureux. Puis, quel joli garçon lui aura graissé la patte pour qu'elle m'annonçât sinistre aventure. Mais tout cela saute aux yeux pourtant. Malgré moi, ces paroles me touchent. J'en suis presque effrayé. Vous riez, et vous avez raison. La vérité est que j'avais projeté d'aller demander à dîner au château de Dorielli. Et maintenant, j'hésite. Je suis un grand fou, Voyons, monsieur le professeur, décidez vous-même, irons-nous?
Je me garderai bien d'avoir un avis, lui répondis-je en riant. En matière de mariage, je ne donne jamais de conseils. Nous avions rejoint nos chevaux. Le comte sauta lestement en selle et, laissant tomber les rênes, il s'écria « Oh, le cheval choisira pour nous !» Le cheval n'hésita pas. Il entra sur le champ dans un petit sentier qui, après plusieurs détours, tomba dans une route ferrée et cette route menait à Novigilli. Une demi-heure après, nous étions au perron du château. Au bruit que firent nos chevaux, une jolie tête blonde se montra à une fenêtre entre deux rideaux. Je reconnus la perfide traductrice de Mickiewicz. « Soyez le bienvenu, dit-elle. Vous ne pouviez venir plus à propos, comte Svetsniot. Il m'arrive à l'instant une robe de Paris. Vous ne me reconnaîtrez pas tant je serai belle. » Les rideaux se refermèrent. En montant le perron, le comte disait entre ses dents « Assurément, c'est pas pour moi qu'elle les traînait cette robe. » Il me présenta Madame d'Oguiello, la tante de la Panna Iwinska, qui me reçut obligeamment et me parla de mes derniers articles dans la Gazette scientifique et littéraire de Königsberg. Monsieur le professeur, dit le comte, vient se plaindre à vous de Mademoiselle Julienne, qui lui a joué un tour très méchant. Oh, c'est une enfant, monsieur le professeur, il faut lui pardonner. Souvent, elle me désespère avec ses folies. À 16 ans, moi, je n'étais plus raisonnable qu'elle ne l'est à 20. Mais c'est une bonne fille, au fond, et elle a toutes les qualités solides. Elle est très bonne musicienne, elle peint divinement les fleurs. Elle parle également bien le français, l'allemand, l'italien. Elle brode. « Et elle fait des Verdjmoud, ajouta le colonel en riant. « Oh, l'on est incapable !» s'écria Madame Briello, à qui il fallut expliquer l'expièglerie de sa nièce. Madame Briello était instruite et connaissait les antiquités de son pays. Sa conversation me plut singulièrement. Elle lisait beaucoup de revues allemandes, et avait des notions très saines sur la linguistique. J'avoue que je ne m'aperçus pas du temps que Mademoiselle Iwinska mit à s'habiller. Mais il parut long au comte Smedioff, qui se levait, se rasseyait, regardait à la fenêtre, et tambourinait de ses doigts sur les vitres comme un homme qui perd patience. Enfin, au bout de 3 quarts d'heure, parut, suivie de sa gouvernante française, Mademoiselle Julienne, portant avec grâce et fierté une robe dont la description exigerait des connaissances bien supérieures aux miennes. « Ne suis-je pas belle ?» demanda-t-elle au comte, en tournant lentement sur elle-même pour qu'il pût la voir de tous les côtés. Elle ne regardait ni le comte ni moi. Elle regardait sa robe. « Comment, Loulka, dit Madame d'Orguillou, tu ne dis pas bonjour, monsieur le professeur, qui se plaint de toi ?»« Ah, oh, monsieur le professeur » s'écria-t-elle avec une petite moue charmante. « Qu'ai-je donc fait? Est-ce que vous allez me mettre en pénitence ?» Nous nous y mettrions nous-mêmes, mademoiselle, lui répondis-je, si nous nous privions de votre présence. Je suis loin de me plaindre. Je me félicite au contraire d'avoir appris grâce à vous que la muse lituanienne renaît plus facilement que jamais. Elle baissa la tête et, mettant ses mains devant son visage, en prenant soin de ne pas déranger ses cheveux, « Pardonnez-moi, je ne le ferai plus,
dit-elle du ton d'un enfant qui vient de voler des confitures.
Je ne vous pardonnerai, cher Pani, lui dis-je, que lorsque vous avez rempli certaines promesses que vous avez bien voulu me faire à Villeneuve, chez la princesse Katarzyna, passe.
Mais quelle promesse ? Fit-elle, relevant la tête en riant.
Vous l'avez déjà oublié ? Vous m'avez promis que si nous nous rencontrions en Samogistie, vous me feriez voir une certaine danse du pays dont vous disiez merveille.
Oh, la Roussalka ! Oh, j'y suis ravissante ! Et voilà justement l'homme qu'il me faut.
Elle courut à une table où il y avait des cahiers de musique, en feuilleta un précipitamment, le mit sur le pupitre d'un piano et s'adressant à sa gouvernante, « Tenez, chère âme, allegro presto !»
Et elle joua elle-même, sans s'asseoir, la ritournelle pour indiquer le mouvement.
Avancez ici, comte Michel. Vous êtes trop lituanien pour ne pas bien danser la roussalla. Mais dansez comme un paysan, entendez-vous.
Madame Novriello essaya d'une remontrance, mais en vain. Le comte et moi nous insistâmes. Il avait ses raisons, car son rôle dans ce pas était des plus agréables, comme l'on verra bientôt. La gouvernante, après quelques essais, dit qu'elle croyait pouvoir jouer cette espèce de valse, quelque étrange qu'elle fût, et Mademoiselle Ivinsa, ayant rangé quelques chaises et une table qui aurait pu la gêner, prit son cavalier par le collet de l'habit et l'amena au milieu du salon.
« Vous saurez, monsieur le professeur, que je suis une roussalka pour vous servir. »
Elle fit une grande révérence.
Une roussalka est une nymphe des eaux. Il y en a une dans toutes ces mares pleines d'eau noire qui embellissent nos forêts. Ne vous en approchez pas. La roussalka sort encore plus jolie que moi, si c'est possible. Elle vous emporte au fond, selon toute apparence, elle vous croque.
Oh, une vraie sirène, m'écriai-je.
« Lui, continua Mademoiselle Ivinska en montrant le comte Sesnoff, est un jeune pêcheur, fort niais, qui s'expose à mes griffes. Et moi, pour faire durer le plaisir, je vais le fasciner en dansant un peu autour de lui. Ah, mais pour bien faire, il me faudrait un sarafrane. Quel dommage! Vous voudrez bien excuser cette robe qui n'a pas de caractère, pas de couleur locale. Bon, j'ai les souliers. Impossible de danser la roussalka avec les souliers. Et à talons encore. »
Elle souleva sa robe et secouant avec beaucoup de grâce un joli petit pied, au risque de montrer un peu sa jambe, elle envoya son soulier au bout du salon. L'autre suivit le premier et elle resta sur le parquet avec ses bas de soie.
« Tout est prêt !» dit-elle à la gouvernante.
Et la danse commença. La roussalka tourne et retourne autour de son cavalier. Il étend les bras pour la saisir, elle passe par-dessous lui et lui échappe. Cela est très gracieux, et la musique a du mouvement et de l'originalité. La figure se termine lorsque le cavalier, croyant saisir la roussalka pour lui donner un baiser, elle fait un bond, le frappe sur l'épaule et il tombe à ses pieds comme mort. Mais le comte improvisa une variante qui fut d'étreindre l'espiègle dans ses bras et de l'embrasser bel et bien. Mademoiselle Ivinska poussa un petit cri, rougit beaucoup, et alla tomber sur un canapé d'un air boudeur, en se plaignant qu'il l'eût serré comme un ours qu'il était. Je vis que la comparaison ne plut pas au comte, car elle lui rappelait un malheur de famille, et son front se rembrunit. Pour moi, je remerciais vivement Mlle Ivinska et donnais des éloges à sa danse, qui me parut avoir un caractère tout antique, rappelant les danses sacrées des Grecs. Je fus interrompu par un domestique annonçant le général et la princesse Velaminov. Mlle Ivinska fit un bond du canapé à ses souliers, y enfonça la hâte ses petits pieds et courut au devant de la princesse, à qui elle fit coup sur coup deux profondes révérences. Je remarquai qu'à chacune, elle relevait adroitement le quartier de son soulier. Le général amenait deux aides de camp, et comme nous, venait demander la fortune du pot. Dans tout autre pays, je pense qu'une maîtresse de maison eût été un peu embarrassé de recevoir à la fois six hôtes inattendus et de bon appétit. Mais telle est l'abondance et l'hospitalité des maisons lituaniennes que le dîner ne fut pas retardé, je pense, de plus d'une demi-heure. Seulement, il y avait trop de pâté chaud et froid. Le dîner fut fort gai. Le général nous donna des détails très intéressants sur les langues qui se parlent dans le Caucase et dont les unes sont ariennes et les autres touraniennes, bien qu'entre les différentes peuplades il y ait une remarquable conformité de mœurs et de coutumes. Je fus obligé moi-même de parler de mes voyages, parce que le comte Smedziev, m'ayant félicité sur la manière dont je montais à cheval, et ayant dit qu'il n'avait jamais rencontré de ministre ni de professeur qui pût fournir si lestement une traite telle que celle que nous venions de faire, je dus lui expliquer que, chargé par la société biblique d'un travail sur la langue des Charouas, j'avais passé 3 ans et demi dans la République de l'Uruguay, presque toujours à cheval et vivant dans les pampas parmi les Indiens. C'est ainsi que je fus conduit à raconter qu'ayant été 3 jours égaré dans ces plaines sans fin, n'ayant pas de vivres ni d'eau, j'avais été réduit à faire comme les gauchos qui m'accompagnaient, c'est-à-dire à saigner mon cheval et à boire son sang. Toutes les dames poussèrent un cri d'horreur. Le général remarqua que les Kalmouks en usaient de même en de semblables extrémités. Le comte me demanda comment j'avais trouvé cette boisson. Moralement, répondis-je, elle me répugnait fort. Mais physiquement, je m'en trouvais fort bien. Et c'est à elle que je dois l'honneur de dîner ici aujourd'hui. Beaucoup d'Européens, enfin je veux dire des Blancs, qui ont longtemps vécu avec des Indiens, s'y habituent et même y prennent goût. Mon excellent ami Don Fructuoso Rivero, président de la République, perd rarement l'occasion de le satisfaire. Je me souviens qu'un jour, allant au congrès en grand uniforme, il passa devant un rancho où l'on saignait un poulain. Il s'arrêta, descendit de cheval pour demander un chupon, une sucée, après quoi il prononça un de ses plus éloquents discours. « Mais c'est un affreux monstre que votre président !» s'écria Mlle Ivinska. « Non, pardonnez-moi, cher Pani, lui dis-je, c'est un homme très distingué d'un esprit supérieur. Il parle merveilleusement plusieurs langues indiennes, fort difficiles, surtout le charouas, à cause des innombrables formes que prend le verbe, selon ce régime direct ou indirect, et même selon les rapports sociaux existants entre les personnes qui parlent. J'allais donner quelques détails assez curieux sur le mécanisme du verbe « charoua », mais le comte m'interrompit pour me demander où il fallait saigner les chevaux quand on voulait boire leur sang. Oh, « Pour l'amour de Dieu, mon cher professeur !» s'écria Mlle Ivinska avec un air de frayeur comique. «
Ne le lui dites pas. Il est homme à tuer toute son écurie et à nous manger nous-mêmes quand il n'aura plus de chevaux. »
Sur cette saillie, les dames quittèrent le table en riant pour aller préparer le thé et le café tandis que nous fumerions. Au bout d'un quart d'heure, on envoya demander au salon Monsieur le Général. Nous voulions le suivre tous, mais on nous dit que ces dames ne voulaient qu'un homme à la fois. Bientôt, nous entendîmes au salon de grands éclats de rire et des battements de mains. « Mademoiselle Lulka fait les siennes, » dit le comte. On va le demander lui-même. Nouveaux rires, nouveaux applaudissements. Ce fut mon tour après lui. Quand j'entrai dans le salon, toutes les figures avaient pris un semblant de gravité qui n'était pas de trop bon augure. Je m'attendais à quelques niches. « Monsieur le professeur, » me dit le général de son air le plus officiel, « ces dames prétendent que nous avons fait trop d'accueil à leur champagne et ne veulent nous admettre auprès d'elles qu'après une épreuve. Il s'agit de s'en aller les yeux bandés du milieu du salon à cette muraille et de la toucher du doigt. Vous voyez que la chose est simple. Il suffit de marcher droit. Êtes-vous en état d'observer la ligne droite ?» Je le pense, monsieur le général. Aussitôt, mademoiselle Ivinska me jeta un mouchoir sur les yeux et le serra de toute sa force par derrière. Vous êtes au milieu du salon, dit-elle, et tendez la main. Bon, je parie que vous ne toucherez pas à la muraille.
En avant, en marche, dit le général.
Il n'y avait que 5 ou 6 pas à faire. Je m'avançais fort lentement, persuadé que je rencontrerais quelques cordes ou quelques tabourets traîtreusement placés sur mon chemin pour me faire trébucher. J'entendais des rires étouffés qui augmentaient mon embarras. Enfin, je me croyais tout à fait près du mur, lorsque mon doigt, que j'étendais en avant, entra tout à coup dans quelque chose de froid et de visqueux. Je fis une grimace et un saut en arrière qui fit éclater tous les assistants. J'arrachai mon bandeau et j'aperçus près de moi mademoiselle Ivinska tenant un pot de miel où j'avais fourré le doigt, croyant toucher la muraille. Ma consolation fut de voir les deux aides de camp passer par la même épreuve et ne pas faire meilleure contenance que moi. Pendant le reste de la soirée, mademoiselle Ivinska ne cessa de donner carrière à son humeur folâtre. Toujours moqueuse, toujours espiègle, elle prenait tantôt l'un, tantôt l'autre pour objet de ses plaisanteries. Je remarquai cependant qu'elle s'adressait le plus souvent au comte qui, je dois le dire, ne se piquait jamais et même semblait prendre plaisir à ses agaceries. Au contraire, quand elle s'attaquait à l'un des aides de camp, il fronçait le sourcil et je voyais son œil briller de ce feu sombre qui en réalité avait quelque chose d'effrayant. Folâtre comme une chatte et blanche comme la crème. Il me semblait qu'en écrivant ces vers, Mikhaïlovitch avait voulu faire le portrait de la Panna Vinvinska. On se retira assez tard. Dans beaucoup de grandes maisons lituaniennes, on voit une argenterie magnifique, de beaux meubles, des tapis de Perse précieux, et il n'y a pas, comme dans notre chère Allemagne, de bons lits à plumes à offrir à un hôte fatigué. Riche ou pauvre, gentilhomme ou paysan, un slave sait fort bien dormir sur une planche. Le château de Daugavpils ne fait point exception à la règle générale. Dans la chambre où l'on nous a conduisit, le comte et moi, il n'y avait que 2 canapés recouverts en maroquin. Cela ne m'effrayait guère, car dans mes voyages, j'avais couché souvent sur la terre nue, et je me moquais un peu des exclamations du comte
sur le manque de civilisation de ses compatriotes. Un domestique va nous tirer nos bottes et nous donna des robes de chambre et des pantoufles. Le comte, après avoir ôté son habit, se promena quelque temps en silence. Puis, s'arrêtant devant le canapé où déjà je m'étais étendu, « Que pensez-vous, me dit-il, de Lulka ? Je la trouve charmante. Oui, mais si coquette. Croyez-vous qu'elle ait du goût réellement pour ce petit capitaine blond ?»« L'aide de camp, comment pourrais-je le savoir ? C'est un fait. Donc, il doit plaire aux femmes. »« Je nie la conclusion, monsieur le comte. » Voulez-vous que je vous dise la vérité? Mademoiselle Ivinska pense beaucoup plus à plaire au comte Smedniov que tous les aides de camp de l'armée. Il rougit sans me répondre, mais il me sembla que mes paroles lui avaient fait un sensible plaisir. Il se promena encore quelque temps sans parler, puis ayant regardé sa montre, « ma foi, dit-il, nous ferions bien de dormir, car il est tard. » Il prit son fusil et son couteau de chasse qu'on avait déposé dans notre chambre et les mit dans une armoire dont il retira la clé. « Voulez-vous la garder ?» me dit-il en me la remettant à ma grande surprise. « Je pourrais l'oublier. Assurément, vous avez plus de mémoire que moi. »« Le meilleur moyen de ne pas oublier vos armes, lui dis-je, serait de les mettre sur cette table, près de notre sofa. Non, 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 tenez à parler franchement, je n'aime pas avoir des armes près de moi quand je dors. Mais la raison, la voici. Quand j'étais hussard de Grodno, je couchais un jour dans une chambre avec un camarade, mes pistolets étaient sur une chaise auprès de moi. La nuit, je fus réveillé par une détonation. J'avais un pistolet à la main, j'avais fait feu, et la balle avait passé à 2 pouces de la tête de mon camarade. Je ne me suis jamais rappelé le rêve que j'avais eu. Cette anecdote me troubla un peu. J'étais bien assuré de ne pas avoir de balle dans la tête, mais quand je considérais la taille élevée, la carrure herculéenne de mon compagnon, ses bras nerveux couverts d'un noir duvet, je ne pouvais m'empêcher de reconnaître qu'il était parfaitement en état de m'étrangler avec ses mains s'il faisait un mauvais rêve. Toutefois, je me garde bien de lui montrer la moindre inquiétude. Seulement, je plaçai une lumière sur une chaise auprès de mon canapé et je me mis à lire le catéchisme de Lavinsky que j'avais apporté. Le comte me souhaita le bonsoir, s'étendit sur son sofa, s'y retourna 5 ou 6 fois, enfin il parut s'assoupir, bien qu'il fût pelotonné comme l'amant d'Horace qui, renfermé dans un coffre, touche sa tête de ses genoux repliés. Turpi clausus in arca contractum genibus tangas caput. De temps en temps, il soupirait avec force ou faisait entendre une sorte de râle nerveux que j'attribuais à l'étrange position qu'il avait prise pour dormir. 1 heure peut-être se passa de la sorte. Je m'assoupissais moi-même. Je fermais mon livre et je m'arrangeais de mon mieux sur ma couche lorsqu'un ricanement étrange de mon voisin me fit tressaillir. Je regardais le comte. Il avait les yeux fermés, tout son corps frémissait et de ses lèvres entrouvertes s'échappaient quelques mots à peine articulés. Bien fraîche, bien blanche, « Le professeur ne sait ce qu'il dit. Le cheval vaut rien. Oh, quel morceau friand !» Puis il se mit à mordre à belles dents le coussin où posait sa tête, et en même temps il poussa une sorte de rugissement si fort qu'il se réveilla. Pour moi, je demeurai immobile sur mon canapé et fis semblant de dormir. Je l'observais pourtant. Il s'assit, se frotta les yeux, soupira tristement et demeura près d'une heure, sans changer de posture, absorbé comme il semblait dans ses réflexions. J'étais cependant fort mal dans mon aise et je me promis intérieurement de ne jamais coucher à côté de monsieur le comte. À la longue pourtant, la fatigue triompha de l'inquiétude et lorsqu'entra le matin dans notre chambre, nous dormions l'un et l'autre d'un profond sommeil.